Bonjour, je m'appelle Franck Nielsen et je travaille actuellement au laboratoire d'informatique de Sony à Tokyo, au Japon. Je remercie le professeur Stéphane Mala de m'avoir invité à donner ce séminaire dans son cours Information et complexité. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cet exposé une introduction à la géométrie de l'information qui va assembler étroitement les concepts déjà rencontrés dans ce cours, comme l'entropie de Shannon, le maximum de vraisemblance, l'information de Fisher et les familles exponentielles. Qu'est-ce que la géométrie de l'information? On va considérer une famille de lois de distribution que l'on va appeler le modèle statistique. Par exemple, prenons le cas des lois normales univariées paramétrées par deux paramètres, mu, la moyenne, et l'écart type sigma. La moyenne varie dans le champ des réels, R, et l'écart type dans R+, puisque strictement positif. Le domaine des paramètres, lambda, est donc le demi-plan supérieur. À droite, on a graphé quelques densités paramétriques de lois normales. Chaque densité paramétrée par mu sigma correspond à un point 2D du plan et vice-versa. La géométrie de l'information se pose comme question de savoir quelles sont les structures géométriques et les distances pour cette famille de lois. On peut alors se poser les questions suivantes. Comment interpoler entre densités? Ce qui revient à trouver un chemin entre deux points dans l'espace des paramètres. Ou encore, comment comparer la proximité entre plusieurs densités en définissant une notion de distance statistique. Ce qui est important, ce sont les comparaisons relatives plutôt qu'une mesure absolue de la distance pour répondre à des prédicats comme est-ce que la distance P lambda 1, P lambda 2 est plus grande que la distance P lambda 1, P lambda 3 ou pas? On va voir qu'il existe une infinité de façons de faire en étudiant les concepts d'invariance statistique de ces familles paramétriques de lois. Notre famille de lois P lambda utilise deux types de variables, le paramètre lambda qui indexe la loi dans la famille et la variable x qui varie dans le support commun des distributions. On peut choisir plusieurs paramétrages de lois normales en fonction des applications ou de la facilité de calcul de ces lois. Pour des lois normales univariées, le paramétrage mu sigma est le plus usuel. On peut aussi paramétrer par mu sigma au carré, qui est mu variance et permet de généraliser naturellement aux lois normales multivariées en remplaçant sigma carré par la matrice de covariance. On peut aussi paramétrer par mu log de sigma, qui a l'avantage que le domaine des paramètres revient au plan R2 complet et n'est plus contraint au demi-plan supérieur. Ces paramétrages différents ne changent pas l'espace P de la famille de lois et ne doivent donc ni changer la distance entre deux lois, ni le chemin d'interpolation entre deux lois. On appellera ces chemins d'interpolation les géodésiques par la suite. On va considérer notre modèle statistique P comme une variété différentielle. On dira que le modèle est identifiable lorsqu'il y a une bijection entre les densités de P et l'espace des paramètres lambda. Le modèle statistique des lois normales est identifiable, on a bien une bijection entre les lois normales et les paramètres mu sigma. Par contre, les modèles de mélange de lois et autres modèles statistiques hiérarchiques ne sont pas toujours identifiables, car il se peut qu'à plusieurs paramètres distincts correspond un même mélange. La notion de variété en géométrie différentielle correspond à un espace qui, à l'échelle infinitésimale, s'apparente à l'espace euclidien. On navigue et calcule dans une variété grâce à un atlas de cartes. Chaque carte donne un système de coordonnées locales qui indexe les points sur la variété, et les changements de coordonnées entre cartes recouvrantes doivent se faire de façon lisse. Par exemple, pour couvrir la sphère, on aura besoin au minimum de deux cartes. En géométrie d'information, on part d'un domaine de paramètres qui est une carte globale, l'atlas, et on s'imagine la variété correspondante par cette figure abstraite. Un point de la variété sur la figure abstraite est graphé sur une carte par ses coordonnées, un chemin sur la variété est graphé comme une courbe sur la carte, etc. Ici, on visualise un même point de la variété dans trois cartes différentes. Les entités géométriques sur la variété existent indépendamment de leur représentation dans les cartes locales. La géométrie de l'information étudie en premier lieu les structures géométriques des modèles statistiques, qu'ils soient identifiables ou pas, paramétriques ou non paramétriques. En modélisant le modèle statistique par une variété, on va pouvoir utiliser les concepts de géométrie différentielle, comme les géodésiques, les boules, mais aussi les notions de projection ou de courbure. De plus, on pourra utiliser le puissant calcul tensoriel qui a permis d'étudier l'efficacité des estimateurs en statistique à des ordres supérieurs. On va présenter des nouvelles structures géométriques duales qui pourront être utilisées en dehors du cadre statistique qui les a révélées. Ces structures de la géométrie de l'information ont par exemple été utilisées en optimisation pour l'analyse de méthodes d'optimisation dans des cônes reposant sur des fonctions barrières. La relativité d'Einstein a eu un impact considérable dans beaucoup de domaines scientifiques et la géométrie de l'information est née originellement de la curiosité d'équiper la variété avec la métrique de Fisher et d'obtenir une distance géodésique appelée la distance de Rao. Cela a permis en premier lieu de répondre à des problèmes de classification de populations en statistique. Le professeur Stéphane Mallat vous a déjà présenté la notion d'information de Fisher pour des lois paramétrées. Je vais rappeler sa définition ici dans le cas de multiparamètres. Par définition, la matrice de Fisher d'information est la matrice de covariance du score, où le score désigne le gradient par rapport au paramètre θ de la log densité. Cette matrice de Fisher est symétrique, semi-définie positive, car c'est une matrice de covariance. On dira qu'elle est régulière quand elle est finie et définie positive. On peut visualiser l'information de Fisher en graphant la fonction log vraisemblance. Ici, la figure est dans le cas d'un seul paramètre, mais l'analogie reste valide pour plusieurs paramètres. Prenons l'estimateur du maximum de vraisemblance et regardons la courbe de la fonction log vraisemblance à ce point rouge ici. On voit que la courbure kappa, qui se définit comme l'inverse du rayon du cercle oscillateur, correspond à l'information de Fisher pour le paramètre θ chapeau. Puisque le rayon du cercle oscillateur est l'inverse de l'information de Fisher et que l'estimateur maximum de vraisemblance est asymptotiquement normalement efficace, on visualise la bande Kramer-Rao par le rayon qui indique la variance du maximum de vraisemblance. Dans la plupart des écrits scientifiques, la matrice de Fisher n'est pas présentée comme la matrice de covariance du score, mais donnée plutôt sous forme d'espérance de dérivée partielle de la log vraisemblance. On dérive ces expressions en considérant les identités de Bartlett. On réduit d'abord P de θ comme ex log P de θ, et l'espérance de cette identité est donc 1. En dérivant k fois cette espérance, et en échangeant l'ordre de différenciation avec l'intégration qui se trouve cachée dans la notation espérance, on obtient l'identité de Bartlett d'ordre k. En utilisant l'identité de Bartlett d'ordre 1, qui se lit comme l'espérance du score est 0, et en réécrivant la matrice de covariance, comme suit, on obtient l'expression de l'information de Fisher de première forme, cette expression-ci. En utilisant l'identité de Bartlett d'ordre 2, on réécrit la première forme comme moins l'espérance de la Hessienne de la log vraisemblance. Cette expression est très utilisée en pratique pour estimer l'information de Fisher à partir de données. Un précurseur de la géométrie de l'information est le professeur Mallat Nobis, qui a fondé et dirigé le renommé Institut de statistique indien, où le professeur Rao débuta sa carrière. Mallat Nobis a défini la divergence delta au carré entre deux groupes d'échantillons à des attributs par cette formule, où la matrice inverse de covariance sigma est appelée matrice de précision. La matrice de covariance est estimée pour l'ensemble des échantillons de deux groupes, et les vecteurs mu1 et mu2 sont les espérances des deux groupes. Mallat Nobis est intéressé par des problèmes de classification de groupes d'individus à partir de mesures de leur crâne. Par exemple, peut-on dire que tel groupe est plus proche de tel groupe que tel autre groupe? La divergence delta au carré de Mallat Nobis n'est pas une distance au sens métrique du terme, car elle ne satisfait pas l'inégalité triangulaire des distances métriques. Par contre, sa racine carrée est une distance métrique qui généralise la distance euclidienne obtenue pour sigma égale la matrice identité. Cette distance de Mallat Nobis peut se réécrire comme une distance induite par une norme, et cette même norme est induite par un produit scalaire. En général, le produit scalaire entre deux vecteurs est défini par la forme bilinéaire suivante, où Q est une matrice définie positive. Le produit scalaire permet de définir la notion d'angle entre deux vecteurs, et donc d'orthogonalité entre eux, quand le produit scalaire est 0 et l'angle correspondant est de 90 degrés. On verra que cette distance de Mallat Nobis est liée à la géométrie des espaces tangents de la variété statistique. Sur cette figure, on représente la variété statistique P en gris, et à deux positions, P de θ, P de θ', et on illustre le concept de plan tangent qui est l'approximation linéaire de la variété en ces points. Une métrique riemannienne est un champ de produits scalaires qui varie de façon lisse lorsque l'on se déplace sur la variété. La métrique de Fisher est la métrique riemannienne obtenue par la matrice de Fisher lorsqu'elle est définie positive. La métrique G est un objet géométrique vivant dans la variété, tout comme les vecteurs et les vecteurs de base naturels qui vivent dans les plans tangents. Pour calculer le produit scalaire, on utilise la matrice de Fisher et les vecteurs exprimés dans cette base naturelle par leurs composantes, que l'on a indiquées avec des exposants. C'est ce qu'on appelle les composantes contravariantes en géométrie différentielle, car ces composantes varient selon la règle dite contravariante lors d'un changement de base. On peut réinterpréter les objets géométriques que sont le plan tangent et le produit scalaire en termes statistiques. À un vecteur V, on va associer une représentation V de x grâce à la base des vecteurs score, qui sont les dérivées partielles du score par rapport aux paramètres. Le plan tangent correspond à l'ensemble des variables aléatoires d'espérance nulle. Et le produit scalaire entre deux vecteurs de base se réécrit avec l'espérance correspondante à leur représentation. On peut visualiser la métrique de Fisher par ce qu'on appelle des indicatrices de Tissot. Une indicatrice de Tissot est un ellipsoïde qui montre la déformation locale. À droite, nous avons les indicatrices de Tissot pour la projection de Mercator. Pour visualiser la métrique de Fisher des lois normales, on visualise sur une grille du demi-plan supérieur les ellipsoïdes de la matrice de Fisher. Elles sont parallèles aux axes du repère mu-sigma. On peut constater la bande de Kramer-Rao comme suit. Pour chaque point de la grille correspondant à une loi normale, mu-sigma, on tire S échantillon, visualisé ici dans une même couleur, par un nuage de points, et on estime le maximum de vraisemblance. On répète 4 fois cette procédure afin de calculer la matrice de covariance des estimateurs. On dessine les ellipsoïdes obtenus en noir, et on voit qu'ils sont proches de l'inverse de la matrice de Fisher, dessinée ici en rouge et parallèle aux axes. Sur la variété statistique équipée de la métrique de Fisher, on peut considérer la distance riemannienne induite qui porte le nom de distance de Rao. La formule est ici. Cette distance correspond à la longueur de la géodésique riemannienne, reliant deux points P de θ1 à P de θ2. On définit un élément de longueur infinitésimale, ds, et on intègre cet élément le long de la géodésique. Bien que nous connaissons les formules de distance de Rao pour de nombreuses familles de probabilités, nous n'avons pas de formule close pour les lois multivariées, qui sont très utilisées en pratique, car il faut savoir résoudre l'équation de la géodésique riemannienne et savoir intégrer l'élément infinitésimal dessus. Considérons deux paramétrages, θ et ηθ, du modèle statistique P. La matrice de Fisher pour le paramètre état peut être déduite de la matrice de Fisher pour le paramètre θ par la formule suivante qui utilise la matrice jacobienne de transformation et sa transposée. On dit que la matrice de Fisher est covariante par reparamétrage. Par contre, l'élément infinitésimal est lui invariant par reparamétrage. On a donc bien ds de θ égale ds de état. Et donc, la distance de Rao, comme l'intégrale de l'élément infinitésimal, est invariante par reparamétrage. Quand on exprime les densités de loi par θ ou par ηθ, on a la même distance invariante de Rao. C'est ce qu'on appelle le premier principe d'invariance en géométrie de l'information. Dans ce transparent, j'illustre ces propriétés de covariance de la matrice de Fisher pour les trois paramétrages présentés au début de l'exposé, le paramétrage mu sigma, le paramétrage mu sigma carré et le paramétrage mu log de sigma. On passe d'une matrice de Fisher dans une représentation à une autre matrice de Fisher dans une autre représentation par la transformation covariante que j'ai exprimée au transparent précédent. Ces trois paramétrages différents donnent tous lieu au même élément infinitésimal de longueur de la métrique de Fisher. Et la distance de Rao est cette formule-ci qui se trouve facilement en fait une fois que nous avons remarqué qu'à un facteur 2 près, on a la métrique hyperbolique de Poincaré dans le demi-plan supérieur. On a donc que les géodésiques entre deux lois normales dans la géométrie de Fisher-Rao sont des arcs d'ellipse dont les centres sont sur l'axe des x. On a aussi, lorsque mu est constant, des géodésiques verticales. La variété statistique de Fisher-Rao est intrinsèque, mais comme toute variété riemannienne, elle peut être visualisée dans un espace euclidien comme une surface par un plongement isométrique. Cette surface est la variété de Fisher extrinsèque. Par exemple, si on prend une famille de lois de Bernoulli de paramètres P, qui correspond à définir la probabilité de tirer pile ou face avec cette probabilité P, on représente l'espace des paramètres comme le simplex 1D dessiné ici dans le plan 2D, c'est l'espace des paramètres. Ce segment de droite bleue peut être transformé en un quart de cercle dans l'ortant positif d'une sphère de rayon par la transformation 2 racines carrées. On remarque que la transformation covariante de la matrice de Fisher par la transformation 2 racines carrées donne la métrique euclidienne et on en déduit donc la distance de Rao entre deux lois de Bernoulli par la longueur d'arc correspondant sur ce plongement. Un exemple de variété de Fischer est ce qu'on appelle les neurovariétés. On considère l'espace des paramètres d'un réseau de neurones. Un réseau de neurones associe à une entrée x une fonction y égale nnθ de x auquel on ajoute un bruit aléatoire epsilon. On appelle cela un réseau de neurones stochastiques. La loi jointe entrée x sortie y va s'écrire comme suit. Et si l'on choisit un bruit gaussien pour epsilon, on obtient cette loi jointe. On peut donc associer à chaque point de l'espace de paramètres une densité qui est la loi jointe des entrées-sorties paramètres paramétrées par les poids θ des synapses du réseau. Notons que maximiser la log vraisemblance pour un jeu d'entraînement correspond à minimiser la moyenne des erreurs quadratiques. Pour apprendre les paramètres, on utilise une méthode de descente de gradient et on visualise l'apprentissage comme une trajectoire sur cette neurovariété. En pratique, on observe des phénomènes de plateau où la convergence est très lente lorsque l'information de Fischer est proche d'être dégénérée. Cela correspond à une prochaine singularité sur la neurovariété. Un autre problème avec la méthode de gradient est qu'elle n'est pas invariante au reparamétrage. Donc ici, je présente la méthode de gradient ordinaire par rapport au paramètre θ. Si on écrit par rapport à notre paramétrage θ, alors il se peut qu'on converge vers un autre minimum local. Donc la méthode de gradient dépend du choix du paramétrage. Le professeur Amari a proposé la méthode du gradient naturel qui consiste à prémultiplier le gradient ordinaire par l'inverse de la métrique riemannienne, ce qui correspond mathématiquement à choisir la plus forte pente riemannienne. La méthode de gradient naturel évite les phénomènes de plateau lors de l'apprentissage et possède d'autres propriétés intéressantes en statistique. La descente par gradient naturel est différente de la descente par gradient riemannien qui lui demande de calculer ce qu'on appelle une exponentielle riemannienne qui est coûteuse mais qui garantit toujours de rester sur la variété en marchant sur les géodésiques. La mise à jour des paramètres avec le gradient naturel et son pas d'apprentissage ne permet pas, lui, de garantir de rester sur la variété. Dans cette deuxième partie de l'exposé, je reviens sur l'esprit de la géométrie de l'information en montrant une structure de Hall qui va généraliser la structure de Fischer-Rao. On va voir le deuxième grand principe d'invariance, l'invariance sur l'univers oméga des lois par statistique suffisante. C'est cette structure du Hall qui est au cœur de la recherche en géométrie de l'information aujourd'hui et qui a ouvert de nouvelles perspectives pour étudier les systèmes complexes à entropie dite non extensive. Pour expliquer cette structure duale, on va expliquer la notion de géodésique en géométrie différentielle. On a vu qu'en géométrie riemannienne, j'ai défini les géodésiques comme les courbes localement de plus courte longueur. Une géodésique est définie grâce à un opérateur différentiel nabla, appelé la dérivée covariante, qui permet de dériver des tenseurs par rapport à des champs de vecteurs. La dérivée covariante est induite par une connexion affine nabla qui établit comment les vecteurs dans un plan tangent se transportent dans un autre plan tangent infinitésimalement proche. On appelle cela le transport parallèle par la connexion affine nabla. Une géodésique est définie comme une courbe autoparallèle, c'est-à-dire telle que son vecteur tangent reste tangent par le transport parallèle le long de la géodésique. Les géodésiques sont donc des droites qui gardent la même direction. Pour définir une connexion affine sur une variété de dimension d, on a besoin de définir des fonctions à l'aide des symboles de Christoffel, les symboles gamma. En géométrie riemannienne, on utilise une connexion très spéciale qui est construite à partir de la métrique g, c'est la connexion de Lévi-Civita. L'information de courbure de la variété et du modèle statistique sous-jacent se trouve encapsulée dans la connexion affine nabla. On peut la visualiser en faisant le transport parallèle d'un vecteur autour de petites boucles sur la variété. Si on revient après un tour avec la même direction du vecteur, on est localement plat, la courbure est zéro. Par exemple, le cylindre ici est plat puisqu'après un tour, on revient à la même position du vecteur avec la même direction. Si par contre, après un tour complet, on revient avec un vecteur qui montre un déficit d'angle, alors la courbure n'est pas zéro. C'est le cas ici de la sphère. Pour montrer qu'une variété est plate ou pas, il suffit de trouver un système de coordonnées locales, tel que les D-cubes symboles de Christoffel, soient tous nuls. On résout alors facilement l'équation de la géodésique, qui donne lieu à un segment de droite dans ce paramétrage local. La géométrie d'information a révélé une structure duale où l'on a deux connexions affines, Nabla et Nabla star, telles que la connexion moyenne correspond à la connexion de Lévis-Civita. Toutes les connexions ici sont sans torsion. Pour une structure duale, on a la propriété que le transport de deux vecteurs, l'un par une connexion Nabla et l'autre par une connexion duale Nabla étoile, préserve la métrique. Ce bitransport préserve donc les angles entre les vecteurs transportés, mais pas nécessairement les longueurs des vecteurs. On dit que les connexions duales sont couplées à la métrique car elles préservent la métrique G. Une question est donc de savoir comment construire des connexions duales utiles. On va voir deux méthodes, celle d'Amari et Nagaoka, qui ont proposé les alpha connexions, et celle Teguchi. Amari et Nagaoka ont défini la alpha connexion par ses symboles de Christoffel, les symboles gamma, ijika, alpha. On peut vérifier que la alpha connexion est duale à la moins alpha connexion et que ces connexions sont bien couplées à la métrique de Fischer, car le bitransport parallèle préserve la métrique de Fischer. En particulier, cette alpha géométrie est autoduale pour alpha égale 0. Ce n'est autre que la structure riemannienne de Fischer-Rao où l'on a la distance riemannienne de Rao. La une connexion est appelée la connexion exponentielle ou encore la connexion d'Efron qu'il a mis à jour en étudiant la notion de courbure statistique en inférence. La moins une connexion est appelée connexion de mélange et les connexions alpha se retrouvent en général par cette équation arithmétique de connexion à partir de ces deux connexions de base, NablaE et NablaM. Notons que, mis à part la zéro connexion et sa distance de Rao, nous n'avons pas de notion de distance en général pour la alpha géométrie. Une deuxième façon d'obtenir des paires de connexions duales est de partir d'une divergence en statistique comme la divergence de Kullback-Labler qui s'appelle encore l'entropie relative. C'est la méthode proposée par Eguchi. Pour un modèle paramétrique P de θ, une divergence statistique entre deux lois revient à une divergence sur les paramètres, appelée fonction de contraste ou encore divergence de contraste. La divergence de contraste duale D étoile est définie simplement en changeant l'ordre des paramètres. En effet, bon nombre de divergences, comme la divergence de Kullback-Leibler, sont asymétriques. Eguchi montre comment calculer la métrique G et les connexions duales à partir des dérivées partielles de ces divergences de contraste. La connexion moyenne de ces connexions duales correspond à la connexion de Lévis-Civita pour la métrique induite par la divergence. La divergence de Kullback-Leibler appartient à une famille de divergences appelées les divergences de Xissar, les F-divergences, qui se définissent comme suit, IF de P à Q égale intégrale de PF de Q sur P d'EMU. Par exemple, en prenant le générateur F égale moins log de U, on trouve que la F-divergence est la divergence de Kullback-Leibler. Le générateur F doit être convexe, strictement convexe à 1, et on peut fixer un degré de liberté avec F' de 1 égale 0, et un paramètre d'échelle avec F' de 1 égale 1. La divergence duale d'une F-divergence est une F-divergence pour le générateur dual F étoile, avec F étoile de U égale U F de 1 sur U. On peut vérifier que la méthode d'Eguchi pour ces F-divergences donne la métrique de Fischer et des connexions duales qui appartiennent aux alpha connexions d'Amari et Nagaoka avec alpha égale 3 plus 2 F3' de 1 sur F2' de 1. Le deuxième grand principe d'invariance en géométrie de l'information est celui par statistique suffisante. On considère un espace mesurable, une variable aléatoire sur cet espace et une transformation y égale t de x qui transporte la variable x sur un autre espace mesurable. On peut définir l'information de Fischer par cette transformation pour x et y, et l'on veut que l'information de Fischer pour y soit plus petite ou égale à l'information de Fischer pour x. L'égalité ne doit être obtenue que si la transformation T de x est suffisante. Une statistique est dite suffisante si elle résume toute l'information d'un paramètre sans perte pour l'inférence statistique. Cela se traduit par la probabilité de x sachant le paramètre θ qui doit être égale à la probabilité de x sachant T de x. Une distance statistique d doit aussi satisfaire cette monotonicité. On ne peut pas croître la séparabilité entre deux variables aléatoires indépendantes en les transformant par y égale t de x. On peut démontrer que les f divergences sont les seules divergences séparables qui sont monotones. Les familles de densité qui ont un même support commun et qui admettent une statistique suffisante sont les familles exponentielles, avec leur densité qui peuvent s'écrire de façon canonique comme suit p de θ de x égale exponentielle de produit scalaire θ x moins f de θ. Ici, la fonction f de θ est ce qui permet de normaliser les densités. On peut montrer que c'est une fonction strictement convexe et analytique, elle est donc infiniment différenciable. Le domaine des paramètres d'une famille exponentielle est l'espace grand θ qui est un ouvert convexe. Il existe une infinité de familles exponentielles et beaucoup de lois usuelles comme les lois normales gamma, bêta, Poisson, Dirichlet sont des familles exponentielles après un reparamétrage adéquat. Les distributions qui se trouvent dans cette boîte bleue sont des familles exponentielles. La connexion exponentielle et la connexion de mélange pour ces familles exponentielles sont plates, c'est-à-dire de courbure nulle. On a une géométrie que l'on qualifie de dualement plate. De plus, l'information de Fischer pour les familles exponentielles est le hessien de la fonction cumulante f de θ qui définit la famille. Puisque cette fonction est strictement convexe analytique, la fonction convexe duale par la transformée de Legendre-Fenchel est aussi strictement convexe. On peut donc utiliser un autre système de coordonnées, état, pour indexer les lois d'une famille exponentielle, c'est les paramètres moments, puisque état égale espérance de la statistique suffisante de p de θ. La matrice de Fischer peut s'exprimer encore comme le hessien de la fonction conjuguée, nimbla 2 de f étoile de état. Les géométries dualement plates sont des structures hessiennes. En particulier, les familles exponentielles montrent que la géométrie EM, donc avec la connexion nabla E et nabla M, est une géométrie hessienne induite par une fonction convexe, f de θ. Les géodésiques primales sont des segments de droite dans le paramétrage θ, car les symboles de Christoffel de la connexion primale sont tous à zéro. Les géodésiques duales sont des segments de droite dans le paramétrage dual état, car les symboles de Christoffel de la connexion duale sont tous égaux à zéro. Dans un espace dualement plat, il existe une divergence canonique qui revient à une divergence de Bregman et qui est souvent utilisée en apprentissage. Pour les familles exponentielles, cette divergence de Bregman revient à calculer la divergence duale de Kullback-Leibler ou équivalemment la divergence de Kullback-Leibler en échangeant l'ordre des paramètres. Pour définir une divergence de Bregman, on prend une fonction générateur f de θ qui est strictement convexe en θ et différenciable. La divergence de Bregman entre θ1 et θ2 se visualise sur le graphe de la fonction f de θ par l'espace vertical entre le point θ1 f de θ1 et la tangente à θ2 du graphe de f de θ évalué à θ1. La divergence de Bregman est donc bien positive lorsque le générateur f est convexe. On peut réécrire cette divergence de Bregman en utilisant un paramétrage mixte, θ et η. Ce sont les deux systèmes de coordonnées. On part de l'inégalité de Fenchel-Yang, écrite ici, et on remarque que cette inégalité est égale si et seulement si θ2 égale gradient de f à θ1. En soustrayant la partie droite de la partie gauche de l'inégalité, on obtient donc la divergence dite de Fenchel-Yang. On peut aussi démontrer l'identité des divergences de Bregman duales, qui montre que la divergence de Bregman duale est égale à la divergence renversée pour le générateur qui est la fonction conjuguée f étoile de état sur les paramètres du haut état. On a donc ces égalités encadrées en rouge entre les divergences duales de Bregman et les divergences duales de Fenchel-Yang. Cet exemple montre qu'on peut obtenir en général de la puissance n formule équivalente pour une formule géométrique à n termes dans les espaces dualement plats. Un théorème très important peut être établi dans les géométries dualement plates, c'est un théorème de Pythagore généralisé. Il va nous servir souvent pour analyser les familles exponentielles et l'inférence en statistique. Le théorème de Pythagore généralisé dit que lorsqu'on a une géodésique primale gamma de PQ qui rencontre une géodésique duale orthogonalement à Q gamma de QR étoile, alors on a cette identité. En utilisant l'identité de Bregman à trois paramètres, qui est écrite ici, on peut voir que cela donne une condition pour le test d'orthonormalité qui est écrite ici. La géométrie euclidienne est une géométrie hessienne avec la métrique qui s'exprime comme la matrice identité et la divergence de Bregman qui lui correspond, qui revient à calculer la moitié de la distance euclidienne au carré. On vérifie donc que le théorème de Pythagore en géométrie dualement plate généralise le théorème de Pythagore classique. Dans le cas euclidien, on peut de plus associer les longueurs au carré des géodésiques à la divergence de Bregman euclidienne. On peut définir une projection orthogonale sur une sous-variété S de P par rapport à la métrique de Fischer GF. On a un théorème très utile sur l'unicité des projections en géométrie de l'information. La projection orthogonale d'un point P le long d'une M géodésique est unique sous une sous-variété lorsque celle-ci est exponentiellement plate ou I-plate. On appelle cette projection la M-projection. Pour savoir si une sous-variété est exponentiellement plate ou pas, on regarde si dans les coordonnées θ, cette sous-variété est représentée par un espace affine ou pas. De même, la projection orthogonale d'un point le long d'une E géodésique est unique sur une sous-variété qui est M-plate. C'est la I-projection et on vérifie que la sous-variété est M-plate si dans le système de coordonnées θ, donc le système de coordonnées dual, elle est représentée par un espace affine. Ces preuves d'unicité des projections E et M, se font facilement avec le théorème de Pythagore généralisé. On illustre ici un exemple de M-projection en statistique. Le maximum de vraisemblance pour une famille exponentielle peut s'interpréter comme la M-projection de la distribution empirique PE sur la famille exponentielle qui est une sous-variété E-plate. Le maximum de vraisemblance est donc unique pour les familles exponentielles. De plus, on peut montrer que la M-projection revient à minimiser la divergence de Kullback-Leibler avec l'argument à minimiser placé dans le côté droit de la divergence. Cela correspond à la divergence canonique associée à la M-connexion. On a la divergence canonique D de Nabla-M qui est en effet égale à la divergence de Kullback-Leibler. Le principe d'inférence de l'entropie maximale de Jaynes considère de trouver une distribution P qui maximise l'entropie de Shannon sous des contraintes de moment. Donc les contraintes de moment, on les écrit espérance par rapport à P de Ti de X égale Mi. Ces contraintes de moment définissent une sous-variété qui est M-plate. On peut montrer que la distribution Maxent est la E-projection de la distribution uniforme sur la M-sous-variété des contraintes et que cela revient également à minimiser la divergence canonique associée à la connexion Nabla-E, qui est dans ce cas la divergence de Kullback-Leibler duale. De plus, lorsqu'on fait varier le paramètre M pour les contraintes espérance de T de X égale M, on décrit une famille exponentielle avec comme statistique suffisante les contraintes des moments, donc T de X. Par exemple, les distributions qui maximisent l'entropie pour la moyenne et la variance données définissent les lois normales. On va maintenant combiner les deux projections duales Nabla-E et Nabla-M pour calculer la divergence de Kullback-Leibler entre deux sous-variétés P et Q. Supposons la sous-variété P M-plate, c'est-à-dire une surface Nabla-M autoparallèle, et supposons la deuxième sous-variété Q E-plate, c'est-à-dire une surface Nabla-E autoparallèle. Alors, l'algorithme EM des projections alternées part de Q1 dans Q et calcule la E-projection unique sur P. Puis, à partir de ce nouveau point projeté, on calcule la M-projection unique sur Q et on répète ainsi de suite. On montre que la divergence de Kullback-Leibler entre PT et QT converge bien vers la divergence minimale entre ces deux sous-variétés lorsque T tend vers l'infini. Cet algorithme EM est très utilisé, par exemple, pour étudier la convergence de l'algorithme espérance-maximisation, ou grand E, grand M, en statistique, et interpréter l'apprentissage de réseaux génératifs profonds également. Un autre algorithme de projection est celui des projections cycliques de Bregman. On considère n objets convexes, O1 à On, et on désire savoir s'ils ont une intersection nulle ou pas. Pour cela, on va partir d'un point initial θ0 dans l'espace des paramètres et projeter le point courant sur la contrainte objet en minimisant une divergence de Bregman. On choisit les contraintes avec un ordre cyclique en partant de O1 jusqu'à On. Lorsqu'on aboutit à On, on revient sur la contrainte objet O1 et on recommence ainsi de suite. Sur cette figure, on a pris la divergence de Bregman euclidienne, c'est-à-dire la distance au carré, et deux objets convexes qui sont des disques. On visualise bien que la séquence des projections converge vers un point d'intersection de ces deux disques. L'information de Tchernoff est une divergence qui apparaît naturellement lorsque l'on cherche à borner supérieurement la probabilité d'erreur lorsque l'on fait des tests d'hypothèse. On considère deux distributions P1 et P2 et n échantillons X1 et Xn identiquement et indépendamment tirés du modèle de mélange 1/2 de P1 plus 1/2 de P2. On doit étiqueter ces échantillons par une règle et on commet forcément une erreur lorsque les supports des distributions de P1 et P2 ne sont pas disjoints. On peut montrer que la meilleure règle de classification est la règle MAP pour maximum a posteriori. On classe X comme venant de P1 si le ratio des densités de P1 de X sur P2 de X est supérieur à 1 et sinon on classe X comme venant de P2. On peut borner l'erreur de probabilité PE par 2 à la puissance moins n, la divergence de Tchernoff de P1 à P2. Lorsque P1 et P2 sont deux distributions d'une même famille exponentielle, on montre que la divergence de Tchernoff revient à calculer une divergence de Bregman pour un paramètre alpha étoile qui permet d'interpoler sur la géodésique primale entre le paramètre θ1 et θ2. On peut ainsi caractériser géométriquement exactement la position du scalaire alpha étoile par sa distribution correspondante que l'on appelle la distribution de Tchernoff sur la variété. On montre que la distribution de Tchernoff se trouve à l'intersection d'une E géodésique avec un M bisecteur. Lorsqu'on a maintenant M hypothèses au lieu de 2, la probabilité d'erreur s'exprime asymptotiquement en fonction de la paire de voisins les plus proches au sens de la divergence de Tchernoff. Trouver la paire de Tchernoff la plus proche pour M distribution sur une variété exponentielle peut se faire en étudiant un diagramme de Voronoi défini pour une divergence de Bregman induite par cette famille exponentielle. On utilise donc des techniques issues de la géométrie algorithmique pour calculer la paire de distribution la plus proche au centre de Tchernoff et on en déduit l'erreur de malclassification PE. Un autre trait intéressant des géométries dualement plates est que le gradient naturel par rapport au paramètre θ revient à faire un gradient ordinaire pour le paramètre dual θ. La preuve est très simple en exprimant la matrice de Fischer comme le gradient par rapport à θ de θ de θ et en utilisant la dérivation des fonctions composées pour réécrire la fonction de perte. Ce résultat est très utile en apprentissage pour avoir une invariance de la méthode de gradient et est souvent utilisé en inférence bayésienne ou en optimisation par stratégie d'évolution naturelle. En résumé, on a expliqué la nature duale de la géométrie d'information, la alpha-géométrie, avec son cas particulier, la zéro-géométrie, qui correspond à la modélisation d'un modèle statistique par une variété de Fischer-Rao. Notons bien que dans la alpha-géométrie duale, on n'a pas nécessairement de notion de distance canonique associée. Dans la géométrie dualement plate, ou la géométrie plus ou moins 1, on a un théorème de Pythagore généralisé et une divergence canonique qui revient à calculer une divergence de Bregman. Maximiser l'entropie de Shannon donne les familles exponentielles et l'estimation de ces paramètres par le maximum de vraisemblance peut s'interpréter comme une projection informationnelle liée à la minimisation de la divergence canonique de cette géométrie, qui revient à la divergence de Kullback-Leibler. La géométrie de l'information a permis donc de révéler l'interaction étroite entre estimateurs en statistique, ici le maximum de vraisemblance, et la construction de modèles statistiques correspondants, ici les familles exponentielles. Je vous remercie de votre attention. Et je vous présente ici quelques couvertures d'ouvrages et entrées à la géométrie de l'information. Enfin, finalement, j'aimerais conclure cet exposé avec quelques remerciements, notamment à tous mes collaborateurs, et plus particulièrement le professeur Amari, le professeur Bamaresco et le professeur Boissonnat, et mes collaborateurs directs Gaëtan Agérès et Richard Nock. Je voudrais remercier également le laboratoire où je travaille actuellement, le Sony Computer Science Laboratories, à Tokyo, au Japon, et l'École Polytechnique avec le laboratoire d'informatique de l'ULIX. Je voudrais mentionner deux prochaines manifestations scientifiques à venir. La première est la 41e édition de la conférence sur les méthodes bayésiennes et le principe du maximum d'entropie, MaxEnt 22, qui aura lieu du 18 au 22 juillet à l'Institut Henri Poincaré à Paris. La seconde manifestation à venir se tiendra du 19 au 23 septembre à Hambourg, en Allemagne. Le thème de cette conférence portera sur la géométrie de l'information pour les sciences des données. Enfin, je finirai en signalant que Springer a lancé depuis 2018 un journal sur la géométrie de l'information. Ce journal est désormais indexé par Scopus.